Bonsoir Gilles Leroy.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir pour la présentation de votre livre paru au Mercure de France qui se nomme Dans les Westerns. Je suis très très amoureuse de ce livre, donc je vais être très subjective, je pense. Je dois avouer que je ne sais pas bien comment introduire cette modération, car pour moi il y a énormément de choses qui me viennent en tête et le livre est très 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 riche. Ce qui serait intéressant, ce serait de savoir comment vous parleriez de ce fameux livre de cow-boy ou pas, en quelques mots, de nous résumer un petit peu l'histoire de ce livre.
Le prétexte du livre, enfin le démarrage du livre, c'est un film qui s'appelle La piste héroïque. Ne cherchez pas dans les manuels de cinéma parce qu'il n'existe pas, je l'ai inventé. Et c'est un film que je situe donc dans le tournage en 1948 en Arizona, avec pour principaux acteurs trois jeunes gens. L'un qui est un peu connu, Paul Young, qui est une sorte de vedette du cinéma de western, de série B, hein, c'est pas une star, c'est un acteur connu, plutôt populaire. Il y a une jeune fille, Joan Ellis, qui est connue elle aussi parce que c'est une ancienne enfant star, qui a eu beaucoup de succès quand elle était enfant, et à l'adolescence sa carrière s'est arrêtée momentanément, comme souvent avec les enfants vedettes. Et là elle est très inquiète parce que c'est son premier film en tant que femme, en tant qu'adulte donc, et elle s'inquiète de l'accueil qui sera réservé par le public à son nouveau corps, à son nouveau visage. C'est particulier hein, d'être un enfant star, parce qu'il s'agit après de transformer l'essai, de devenir adulte, et beaucoup n'ont pas passé cette rampe après la puberté. Et puis il y a un total inconnu, Robert Lockhart, dit Bob Lockhart, qui lui, on ne connaît pas très bien d'où il vient. On sait qu'il arrive, il a grandi une partie de sa vie, de son enfance en Écosse, sur les routes, où il était enfant dans une troupe de cirque. Et il est arrivé aux États-Unis à l'adolescence, où son père l'a abandonné. Et voilà, il est arrivé un jour à New York, il rentre très brièvement à l'Actor Studio, et c'est de là donc qu'il arrive de New York jusqu'à cet Arizona pour tourner son premier film. Et voilà le point de départ, si on peut dire, de l'histoire qui lie tous ces personnages, ces trois personnages entre eux, plus bien sûr des personnages annexes comme l'impresario de Bob, Lenny Lieberman, qui lui aussi fait partie de la bande de l'Actor Studio à New York, mais qui ne se trouvant pas beaucoup de talent comme acteur, décide qu'il va être plutôt agent, et parce qu'il ne veut pas quitter le monde du cinéma, mais il ne se sent pas la capacité d'être un grand acteur, et il dit que c'est pas la peine que si on se lance dans une carrière artistique, c'est pas la peine d'être médiocre, autant faire autre chose que de faire mal à un art. Donc il choisit d'être impresario et il le fait très bien, et il sera l'impresario toute sa vie de Bob Lockhart, et c'est sans doute le meilleur ami au monde, ces deux-là.
Du coup c'est très intéressant de vous entendre parler de chaque personnage et des multiples situations qui les lient. On sent ça dès l'obtention du livre, étant donné qu'il y a ce titre quand même qui est très évocateur. Dans les westerns, on s'attend à une suite. Dans les westerns, il y a, et on a l'impression que le livre va à la fois nous montrer ce qu'il veut bien nous montrer et essayer de aussi nous taire certaines choses. Et ce qui est important du coup dans ce livre, c'est le fait que ce soit un roman polyphonique. On s'en rend très vite compte, on a donc la voix de tous ces personnages, et un grand absent, en tout cas on en a l'impression dès le début, c'est ce fameux Bob Lockhart dont on entend la voix tout le long du livre. C'est celui dont tout le monde parle, et j'aimerais bien que l'on puisse parler de ce personnage de Lockhart en regard des autres. Comment vous avez imaginé ce personnage, pourquoi lui, c'est très intéressant, je pense.
C'est celui dont tout le monde parle parce qu'il est là, il est absent, c'est vrai. Et puis c'est aussi celui qui, des trois, est devenu le plus, l'acteur le plus marquant, le plus, oui, une vraie star au sens du terme. C'est-à-dire que c'est pas seulement une star, c'est un acteur de génie. C'est pas seulement un grand acteur, c'est pas seulement quelqu'un qui joue bien, c'est quelqu'un qui, dans le corps, dans le visage, dans le regard, c'est un tout. Et il incarne ça, Bob Lockhart, cette sorte de perfection imparfaite, mais une perfection quand même pour l'écran. C'est ce qui m'intéressait de raconter comment peut se faire effectivement une star, essayer d'imaginer ça. Et en fait, plus que le raconter moi, parce que évidemment, je ne me sentais pas une sorte de légitimité en tant que narrateur possible du livre, j'aurais pas une légitimité à raconter ça. J'ai donc laissé la voix à ceux qui l'ont connu, Johan, sa meilleure amie, Lenny, son impresario, et Paul Young, donc, qui était censé être son rival dans le fameux western La Piste Héroïque, et qui en fait devient son amant à la surprise générale, puisqu'ils sont pas censés être homosexuels, ces deux-là, et surtout. On est dans l'univers des westerns, c'est bien pour ça que le titre, le roman s'appelle ainsi. Et cet univers très, d'une vérité très marquée, très conflictuelle, comme ça, est aussitôt subverti dans le roman par ce qui se passe, non pas à l'écran, ni même hors champ, en coulisses, mais ce qui se passe la nuit à l'hôtel où se retrouvent les deux acteurs après les tournages.
Oui. Et d'ailleurs, on nous dit du personnage, c'était déjà le cas d'ailleurs dans Alabama Song, plus ou moins quand Zelda parlait de sa rencontre avec Fitzgerald, mais là on retrouve ça accentué, on dit que Robert a le hit. C'est très bien développé.
Le hit,
tout
oui,
au long,
le
tout au long
ça,
du livre.
Ouais, c'est l'expression d'une romancière d'origine anglaise qui s'appelait Eleanor Glynn. Qui avait théorisé ça, elle disait qu'en fait les grands acteurs, c'est ce qu'on appelle les stars maintenant, c'était des gens qui plaisaient aux deux sexes, qui avaient le pouvoir de plaire aux deux sexes. On peut penser à des femmes comme Garbo, Dietrich, ou voilà, qui plaisaient effectivement aux deux sexes, à des hommes comme Gary Cooper, qui me semble assez emblématique de ce hit chez un homme, ou de Montgomery Clift, voilà, et elle disait, Eleanor Glynn, je pense que c'est très juste que c'est ce truc en plus qui fait les stars, les très très grands acteurs, c'est pas qu'ils soient androgynes, c'est plus complexe que ça, c'est qu'ils plaisent vraiment aux deux sexes, et ça n'a rien à voir avec leur sexualité personnelle, oui, hein. Ils plaisent aux deux, et quand je finissais le livre, on m'a indiqué un livre d'entretien de Douglas Sirk avec un journaliste américain que je me le suis procuré, donc, et j'ai lu ça avec beaucoup d'intérêt parce que Douglas Sirk est dans le livre. Il se trouve que c'est un de mes réalisateurs préférés. Alors lui, il ne réalisait pas des westerns, plutôt des mélodrames, des mélodrames magnifiques, mais plutôt des mélos. Et dans Douglas Sirk a souvent tourné avec Rock Hudson. Et dans ce livre d'entretien, il dit une chose assez surprenante de naïveté, parce que c'est quand même un homme très mûr et qui a vu beaucoup, beaucoup de gens dans sa vie, qui a beaucoup réfléchi aussi à ce que c'était que le désir et l'amour. Et il dit, je n'ai jamais compris pourquoi Rock Hudson était homosexuel, qui l'avait fait devenir homosexuel, c'est très naïf de penser ça. Et il dit, parce que quand même, ce qui m'étonne, c'est qu'il plaisait beaucoup aux femmes. J'ai même eu des actrices qui me disaient, tu ne pourrais pas m'aider à rencontrer Rock Hudson pour que j'aie une aventure avec lui. Et ce qui était étonnant, c'est de voir donc Douglas Sirk, homme super intelligent, très très psychologue quand même dans tous ses films, être d'une grande naïveté devant cette question. Et il s'étonnait donc, parce que sans doute que dans son système à lui, les homosexuels, un homme homosexuel devait plaire qu'à des hommes. Et donc il s'étonnait que ça passe d'un sexe à l'autre, ces questions de désir. Et moi j'ai trouvé ça, très étonnant à mon tour qu'un homme aussi, je répète, c'est vraiment un grand metteur en scène, un grand psychologue, qui soit aussi démuni et naïf devant le fait que Rock Hudson était homo. Il ne s'en remettait pas quelque part, Douglas Sirk, il ne comprenait pas. C'était étonnant, étonnant.
Donc vous disiez que justement vous citiez ce réalisateur dans votre livre, mais ce n'est pas le seul. D'ailleurs, vous avez dans la critique qu'a fait Bernard Pivot de votre livre, il parle d'un casting du livre.
Bah oui, c'est Hollywood dans les années 50.
Ce qui est très chouette du coup, c'est de sonder où est le réel, où est la fiction, quel personnage a sa part de vrai, et on se rend vite compte que les personnages principaux sont fictifs, mais sont aidés tout au long du livre par ceux qu'ils rencontrent, qui sont donc de réelles personnes qui ont marqué l'histoire des États-Unis, que ce soit cinéma, littérature.
C'est-à-dire que le cadre que je décris, c'est celui donc de Los Angeles dans ces années 50 et 60. Période quand même très très dure, hein, il faut le répéter, parce que, enfin, faut le dire, c'est que c'est la chasse aux sorcières au départ. Quand Bob et Paul tombent amoureux l'un de l'autre, c'est très très compliqué, c'est très dangereux, parce qu'on est donc dans cette chasse aux sorcières qui n'était pas seulement dirigée contre les acteurs et les réalisateurs de gauche, qu'on disait communiste, mais aussi précisément contre les homosexuels. Donc il y avait un vrai danger pour eux, à eux qui devenaient donc, qui étaient des acteurs célèbres, à ce qu'on découvre ce qu'ils faisaient réellement ensemble, puisqu'à un moment ils louent une maison ensemble, et il y a une sorte d'hypocrisie comme ça à Hollywood qui fait que on dit que, comme c'est une grande maison avec deux ailes séparées, on dit qu'en fait, ils reçoivent chacun leur conquête féminine le soir dans leurs appartements respectifs. Et c'est évidemment complètement faux. Mais bon, l'hypocrisie de cette époque-là fait qu'on fait semblant de croire à ce mensonge jusqu'au jour où le vernis craque et où le mensonge menace d'être révélé et où là, le couple se sépare, quoi, est obligé de se séparer. Et donc c'est vrai que ce portrait aussi de Hollywood, c'est un portrait de l'Amérique que je fais, et j'avais donc évidemment, ça me semblait évident que il y aurait les vrais acteurs. Il y a le couple de Lorraine Bacall et Humphrey Bogart qui est très important, puisque eux ont été les premiers visés par la chasse aux sorcières, qu'ils ont vraiment été harcelés par le FBI et toutes les ligues et les commissions McCarthy et toutes celles qui se sont suivies. Et autour, il y a les réalisateurs, alors ceux qui sont dits de gauche, ceux qui sont dits de droite. Et il y a ces scènes où effectivement, on découvre qu'on peut pas recevoir à la même table Cecil B. DeMille et John Ford, par exemple, parce que ça va, ils vont se casser la gueule, quoi. Et pareil, on pouvait pas mélanger des acteurs entre eux pour des raisons politiques, hein. Donc quand on regarde Hollywood et qu'on voit, qu'on imagine que c'est un monde très aseptisé, comme ça, très très futile, en réalité, c'était traversé par des choses profondes, essentielles, et notamment par beaucoup de politiques. Ils n'étaient pas aussi décérébrés qu'ils en ont l'air, ces acteurs. Vous voyez ce que je veux dire, par l'image qu'on nous en a laissée. Donc ça m'intéressait, parce que j'aime bien les acteurs, et je voulais aussi rendre hommage à leur intelligence, à leur façon d'être engagés dans ce monde. Donc oui, pour répondre à la question, il y a effectivement des personnages réels, c'est même eux qui font le décor, enfin le casting principal du livre, et j'ai choisi de créer des personnages là totalement fictifs qui sont les protagonistes eux-mêmes, voilà. Bien qu'ils soient inspirés de personnages et d'acteurs réels, j'avais vraiment envie d'avoir des personnages autonomes, et donc je les ai entièrement créés, mais autour, c'est vrai que les gens sont réels.
Je rebondis sur ce que vous disiez sur l'importance aussi de l'histoire de l'Amérique dans le livre. Il est vrai qu'on ne s'arrête pas non plus à ces années 50, étant donné qu'on découvre les personnages, on est en 2004. Donc on a vraiment une histoire, une chronologie qui se déroule. C'est intéressant de se rendre compte aussi du fait que les personnages ont une sorte d'idée de prescription. D'ailleurs, Paul Young le dit, Il y a prescription, on peut en parler, on peut le dire, les langues se délient et la vérité peut enfin éclater. Et il y a ce personnage donc, dont on n'a pas parlé, qui est le journaliste, qui n'a pas d'identité, a juste une voix, qui est un peu le porte-parole et le témoin, le réceptacle de ce...
Oui, enfin c'est vraiment, je l'appelle l'enregistreur, parce que c'est vrai, son boulot dans le livre, ça consiste vraiment à rencontrer chacun des protagonistes et à brancher sa machine, à enregistrer quoi, et à retranscrire. Il explique qu'il retranscrit en essayant de ne pas juger et en laissant chacun dire sa vérité. Parce que parfois, comme on peut l'imaginer, les vérités des vérités ne coïncident pas forcément. Par exemple, sur l'histoire d'amour entre Bob et Paul et la façon dont Paul aurait rompu avec Bob, Paul a sa version des choses qui n'est pas la même que celle de Lenny, l'ami fidèle de Bob, qui n'est pas non plus celle de Joan qui, elle, prend la défense de Bob. Et donc, voilà, il y a des points de vue que sur lesquels le narrateur, qui n'est même pas un narrateur, je dis que l'enregistreur, donc, ne prend pas parti. Il est là pour retranscrire ce qu'on lui dit et juger le moins possible. Donc, c'est pas, à mes yeux, ce n'est pas vraiment un personnage, ou alors c'est un personnage par défaut, quoi, comme un fantôme, mais c'est vraiment plus un outil qu'un personnage dans le livre.
C'est drôle, je l'ai ressenti différemment.
Alors, c'est bien, c'est-à-dire qu'il arrive à exister alors qu'il n'a pas de corps, il n'a pas d'âge, il n'a pas de nom.
Il n'a pas de nom, effectivement.
Et comme l'a fait remarquer quelqu'un, parce que pour moi, il n'y a pas de doute que c'était un homme, mais il y a une journaliste qui me faisait remarquer l'autre jour que pour elle, c'était une femme.
Ah oui.
Et je ne sais même pas si je l'ai sexué quelque part.
Non,
en fait.
Donc,
effectivement,
du tout,
c'est à ce point où c'est, vous voyez, c'est une sorte de d'être blanc comme ça, tellement neutre qu'on ne sait
pourtant,
même pas.
Et pourtant, il participe complètement à la construction de la parole de chacun et aussi au déroulement de l'histoire qu'évoque chacun, parce que, évidemment, Joanne va parler de ses engagements dans les années 60, et on suit grâce à lui et grâce à tout, les questions qui sont donc absentes, mais qu'il a certainement posées au personnage, on suit vraiment le fil. Et non, c'est intéressant d'avoir votre point de vue sur le fait d'un non-personnage.
Bah pour moi, c'est pas un personnage, vraiment, mais parce que je l'ai pas travaillé comme ça. Après, bon, c'est vrai que dans la mesure où c'est lui qui rend compte juste des paysages, on peut dire, enfin, du ciel, des endroits, il plante le décor. Donc peut-être qu'au bout d'un moment, c'est une voix qui se met à exister. Mais pour moi, vraiment, je vous dis, il n'y avait pas de... Pour moi, il était... Enfin, c'est quelqu'un, de toute façon, qui est en retrait, qui est vraiment là pour faire parler les autres, en fait.
Et du coup, j'en reviens à l'Amérique. Bon, on sait que vous êtes attaché... on va dire au roman américain, en tout cas à la Bamasson, le prix Goncourt que vous aviez eu en 2007 avait été qualifié de roman américain. On connaît aussi votre goût pour la thématique de l'art, du cinéma. Ça ressort énormément dans le livre, forcément, mais ce qui, pour moi, est important, je pense, c'est aussi de dire que c'est un roman d'amour. C'est un roman de l'amour et... en tout cas, je l'ai ressenti comme ça, loin d'être un livre forcément sur le monde du cinéma, sur l'homosexualité. C'est aussi un livre sur la façon de dire le sentiment amoureux, de réfléchir au discours amoureux.
Ça me fait plaisir que vous disiez ça, parce que c'était mon projet. Alors c'est vrai que il y a cette déclaration d'amour au cinéma que je fais, mais j'aurais pas tenu un roman entier là-dessus si j'avais pas été tenu par une histoire. Et cette histoire, c'est cette histoire d'amour entre Bob et Paul qui est le fil rouge, en fait, du roman, même si on peut pas le réduire à ça, puisque cette histoire elle-même ne dure que cette année, ne dure que le temps de la première partie du livre, mais quand même elle reste le fil qui relie les personnages entre eux. Et c'est vrai que j'avais envie de redonner toute sa place au discours amoureux. C'est aussi pour ça d'ailleurs que je vous disais que je mettais, pour moi le plus important, c'était de mettre en avant les voix de ces gens qui parlent là. Et quand je dis le discours amoureux, c'était, je voulais parler à nouveau d'amour, mais peut-être pour la j'avais déjà écrit des romans qui, bien sûr, qui parlaient d'amour, ou des romans d'amour, mais que l'amour soit une sorte de soit vraiment le moteur et le sujet central sur lequel chacun revienne. Et l'amour au sens, le, comment dire, au sens peut-être plus de l'affection, enfin de l'attachement que l'on peut avoir, parce que très vite j'ai compris, et c'est comme ça d'ailleurs que le personnage de Leni Liberman, de l'impresario, qui au départ n'était pas censé prendre cette place-là, c'est comme ça qu'il a pris cette place. Au départ, pour moi, il était évident qu'on entendrait la parole amoureuse de Paul à l'égard de Bob, donc un amour érotisé, enfin l'amour au sens classique du terme, l'amour passion, mais il fallait aussi entendre l'amour de Johan pour Bob, et cette relation complexe, mais qui arrive très très fréquemment dans la vie des homosexuels, qui est une relation d'amitié amoureuse avec une femme. Et pareil, cette relation dure toute la vie, c'est-à-dire que Johan, bien que déçu, lorsqu'elle découvre au moment du tournage du western qu'elle n'a aucune chance avec Bob, bien que déçue, elle surpasse ça, elle surmonte ça, et ça reste les deux meilleurs amis du monde. Enfin, en tout cas, ça reste peut-être le couple le plus durable de tout le roman. Et il y a une autre forme d'attachement, qui est l'attachement fraternel que vous, Leni, à Bob, parce que, alors, pour le coup, leur amitié est sans ambiguïté, d'aucune sorte. Et Leni s'en amuse d'ailleurs à un moment, il se demande pourquoi il s'est tant attaché à cet homme qui lui désire les hommes. Alors il se posait des questions sur sa propre sexualité, mais non, c'était pas ça, c'est juste que c'était son meilleur ami, son frère, quoi, son frère adoptif. Et donc voilà, il y a trois visages de l'amour qui sont l'amour fraternel au sens fort du terme, qui sont l'amour passion, l'amour classique, donc. Et puis, cette amitié amoureuse qui est aussi, pour moi, aussi importante peut-être que l'amour classique, on va dire, parce que l'amitié fait partie, quand elle est très puissante, fait partie quand même des choses qui nous accompagnent longtemps, longtemps, longtemps dans une vie, souvent bien plus longtemps que nos histoires d'amour.
C'est vrai que, en plus, tout tourne autour de ce personnage de Bob, cet amour-là.
Mais c'est un aimant, c'est un aimant amour.
Et voilà, il y a beaucoup, beaucoup de...
Peut-être parce qu'il n'a pas été beaucoup aimé dans son enfance.
C'est ça, et il y a une phrase qui m'a énormément marquée quand j'ai relu le livre, parce que je l'ai lu plusieurs fois, et qui, en fait, a éclairé ma lecture et qui, pour moi, pourrait presque résumer le livre, c'est beaucoup dire, hein, mais c'est cette phrase clé qui est très exactement « rien de mal ne peut arriver tant que Bob est là ». Et elle s'applique, me semble-t-il, à tous les personnages.
Oui, parce que les trois sont dans cet état-là, effectivement, d'être suspendus. En fait, on comprend très vite que si Bob n'est pas à la projection de la version remasterisée et colorisée du fameux western tourné 50 ans plus tôt, s'il n'est pas là, c'est qu'il est souffrant, mais pas un peu souffrant comme on le croit ou comme on le dit, mais en fait très très malade et voire au bord de la mort, quoi. Et les trois sont dans cette angoisse. Et sont en train d'évoquer quelqu'un dont ils savent qu'ils vont peut-être le perdre d'un jour à l'autre.
Mais ce qui est superbe, c'est que cette phrase, on a l'impression qu'ils l'ont répétée comme une sorte de maraude pendant des années. Même plus jeune, c'était presque une façon de se donner de la force, de se dire Bob est là, même quand ils étaient dans les années 50.
Oui, chacun pour des raisons différentes a effectivement un attachement très particulier à cet homme, oui. Ouais. Et tout le jeu du romancier, là, c'est d'expliquer la nature, pourquoi dans la nature de leur relation, il peut survivre un tel attachement malgré les années, malgré les déceptions, parce que quand je parlais d'affection, on n'est pas dans l'amour aveugle non plus, hein. C'est des gens qui voient très bien les défauts de leur ami et amant, c'est pas la question. Mais bon, voilà, ça passe le temps et c'est ce qui fait que pour le romancier que je suis, en tout cas, il y avait un vrai défi et aussi un plaisir à essayer de comprendre sur 50, 60 années ce que ça voulait dire une relation, alors que j'ai pas encore là, j'aurais pu dire que j'ai des relations depuis 50, 60 ans avec des gens, non. Mais j'essayais de comprendre ça, comment les gens qui se connaissent à 17 ans, hein, s'accompagnent jusqu'à 80 ans, par exemple, et est-ce que ça peut... Quelle peut être l'explication de ça et le ressenti. Donc,
Et j'ai une autre question qui m'a trotté dans la tête tout le long de la lecture. Et c'est, vous me direz si je me trompe, mais j'ai l'impression, je me suis interrogée sur la mise en page très particulière donc du livre, qui donne une sorte de, donc c'est une mise en page pour ceux qui ne l'ont pas lu, très saccadée, avec voilà une sorte de souffle en fait qui amène très très bien l'oralité qui constitue les interviews de ces trois personnages. Est-ce que donc ça a été voulu comme une idée voilà de saccade, de souffle, de pause? Est-ce que je l'ai bien compris?
Pourquoi cette mise en page? Plus que saccadé, c'est des moments. Il y a différents moments. Il y a des moments au contraire où c'est très, la phrase est très dilatée, où elle peut s'étendre sur une page entière, voire deux, voire trois. Sans alinéa, et puis des moments où au contraire les phrases sont juste des lignes de 2-3 mots, et j'essayais à travers ça effectivement, comme vous le disiez, de reproduire l'oralité, mais aussi une sorte de comme je le fais souvent dans mes livres, d'essayer de retrouver un peu le flux de la conscience dont parlait Virginia Woolf, et de m'en rapprocher par des jeux de ponctuation et de blanc effectivement qui aident, je crois, à ressentir par exemple dans ces moments de très grande émotion, quand certains n'arrivent plus à parler tellement ils sont bouleversés, laisser donc flotter un mot au milieu de comme ça seul sur une ligne, ou au contraire laisser des espaces, agrandir les espaces entre les mots jusqu'à ce que ça devienne ça flotte comme ça, pour montrer à quel point la personne est perdue submergée dans ses oui. émotions. Oui, il y a eu un jeu comme ça. On a fait ça avec la typographe chez Gallimard. Je lui ai dit, voilà, est-ce qu'on peut jouer de ces espaces et tout. Je l'avais déjà fait, en fait, donc je savais que c'était possible. Mais là, on a essayé d'aller encore un petit peu plus loin, de systématiser les choses.
C'est très marquant, notamment lorsque Paul Young prend la parole. Parce qu'on sent qu'il le dit lui-même. Il lui dit que... qu'il est très ému, qu'il est perturbé, qu'il ne sait plus si le souvenir, s'il arrive à donner le souvenir comme la situation a été. Et oui, c'est dans les passages où Paul Young prend la parole, on sent qu'il y a une émotion toute particulière qui est très bien rendue. Donc, je suis contente de vous entendre parler de la mise en page. Je pense qu'on n'en parle pas assez.
Il y a des livres où c'est pas un sujet, parce que dans certains de mes romans, oui. il y a pas. Bon, j'ai mes tics à moi, comme ces lignes de points, les points de continuité. Je sais plus comment on appelle ça en typographie. Bon, ça c'est mes tics à moi, mais ça ne remet pas en question la géographie de la page, quoi. Mais voilà, bon, c'est dans ce roman-là, et parce que c'était vraiment d'abord des voix, je voulais vraiment retrouver comme sorte de que le lecteur ait la perception physique de la voix, de ces moments où une voix s'étrangle, où il n'arrive plus qu'à dire un mot de temps en temps. C'est le cas de Paul, mais c'est aussi le cas de Lenny lorsqu'il comprend que Bob va mourir. C'est le cas un peu moins de Joanne, parce qu'elle est plus dans la maîtrise. Joanne, elle est plus dans le contrôle de soi. Donc j'ai joué aussi. La page, comme ça, permet aussi d'identifier à quel personnage on a affaire selon la façon dont les voix sont balancées.
Dernière petite question, qui va être très personnel en tout cas. J'étais très intriguée par les références littéraires aussi que vous faites dans le livre. On a l'idée d'une adaptation de Martin Eden au cinéma, on a beaucoup de références à Truman Capote, McCullers et aussi à Tennessee Williams, beaucoup. Pour quelles raisons? C'est des goûts personnels?
Alors il y a de tout, parce qu'il y a mes goûts personnels, en l'occurrence Carson McCullers. Et puis il y a aussi, il y a l'invention de cette adaptation de Martin Eden qui n'a jamais eu lieu, mais c'est mon amour pour Jack London qui m'a poussé à faire ça. Je venais de lire tout Jack London, donc je sais pas pourquoi, j'avais envie de rendre hommage à mes récentes lectures. Après tout, il y a parfois des choses qui sont de l'ordre de la totale subjectivité, vous savez, dans les choix qu'on fait. Et puis non, mais je trouvais intéressant que le personnage de Martin Eden soit un personnage que Bob, qui est lui-même un, un, un gamin déclassé, enfin qui n'est pas. C'est intéressant qu'il s'entiche de ce personnage et qu'il veuille monter le film. Donc ça, c'est l'autre film inventé du livre. Il n'a jamais existé en fait ce film. Et quant à Truman Capote et Tennessee Williams, là c'est très particulier parce qu'ils sont vraiment des personnages à part entière du livre dans la mesure où ils fréquentent, où ils traînent dans la bande qui a Actor Studio et un peu autour de l'Actor Studio, mais notamment Tennessee Williams est très présent dans le cinéma. Il a écrit de nombreux scénarios et de très grands films. Donc c'était des gens qui faisaient partie du milieu new-yorkais, mais aussi cinématographique de l'époque. Donc ils ont une sorte d'évidence à être là dans le livre.
C'est drôle. Après, c'est peut-être involontaire, mais j'ai l'impression qu'il y a énormément de références à Soudain l'été dernier. En tout cas, moi, je les ai vues. Le fait que Robert soit le grand absent du livre, comme Sébastien a pu l'être. Le fait qu'on nous parle beaucoup des conquêtes de Williams, du coup, cette fois-ci sur la plage.
Ah oui, j'ai pas du tout pensé.
C'est très drôle, moi, m'a sauté aux yeux. Du coup, c'est une
anecdote.
C'est drôle,
j'y ai pas pensé. Oui, j'y ai pas pensé. Alors que Liz Taylor, bien sûr, est présente aussi.
On nous parle de Elie Kazan aussi.
Dans le livre. Oui, mais c'est vrai que j'ai pas pensé à ce, j'ai pas tellement pensé à ce film qui est, j'ai un peu honte de le dire, qui n'est pas un de mes films de chevet.
Moi non plus, c'est le livre, oui, mais la pièce, oui, mais.
Ouais. Mais non, c'est vrai, vous avez raison maintenant que vous le dites, mais j'y ai vraiment
pas
pensé.
C'est anecdotique, mais ça m'a frappé. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup.